À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Alain Françon, metteur en scène.
Premier épisode, la mine, le bistrot et le foot. Bonsoir Alain Françon.
Bonsoir.
Vous êtes l'un des plus grands metteurs en scène vivants, je commence fort, hein. Vous incarnez un demi-siècle de théâtre. Vous êtes un homme aussi réputé taiseux et pudique, mais au fond, vous parlez assez facilement de votre passion et de votre travail. Voilà qui nous arrange pour ces 5 entretiens de 30 minutes que nous allons faire avec vous. Vous avez mis en scène, alors j'ai un peu compté, hein, pas loin de 100 pièces aujourd'hui, certaines plusieurs fois, assez peu de classiques, beaucoup d'auteurs contemporains, parmi lesquels Michel Vinaver, Edouard Bond, Anton Tchekhov et Henrik Ibsen tiennent sans doute le haut du pavé. Des pavés, vous en avez jeté dans votre jeunesse, mais vous avez vite préféré faire de la politique via le théâtre, ou du théâtre une agora politique. Votre théâtre s'apparente à un théâtre des idées, formule empruntée à Antoine Vitez, au sens où l'art de la représentation et de la pensée en mouvement, et où, armé d'une solide science des textes et entouré d'une famille d'acteurs et d'actrices prêtes à le suivre, vous vous approchez au plus juste de la matière humaine contemporaine. Vous avez aussi dirigé 2 centres dramatiques nationaux, de Lyon puis de Savoie, avant de prendre les rênes du Théâtre National de la Colline à Paris, que vous avez tenu pendant 14 ans, et vous y avez défendu une certaine idée de théâtre, la vôtre, au service des auteurs, des acteurs et des spectateurs. Et c'est de cela que nous allons parler au cours de ces émissions, au cours de ces entretiens. C'est donc une vie au service du théâtre que vous avez et que vous avez eue, Alain Françon. Au fond, pourquoi ? Pourquoi avoir fait du théâtre votre vie ?
Je crois que ça vient très tard. C'est-à-dire que rien me destinait à ça. C'était plutôt, je sais pas, je viens d'un milieu, disons, plus populaire, plus ce qui était formidable, c'était de faire des études et puis devenir prof ou enseignant. Enfin, je sais pas, sûrement quelque chose comme ça. Ça, c'était le nirvana, quoi. Alors, en fait, je l'ai fait. Je l'ai fait pour rassurer la famille, disons. Donc, c'est vrai que j'ai fait des études secondaires, après j'ai fait une maîtrise d'histoire de l'art, et puis en même temps j'ai commencé à faire le théâtre. Mais le théâtre, il est venu par un ami qui était avec nous en classe, je crois, en seconde, première, terminale, qui lui était au conservatoire de Saint-Étienne. Donc il nous parlait un peu de ce qu'il faisait comme ça, enfin je veux dire des textes qu'il récitait, des choses comme ça.
Pour moi c'est plus le sens du théâtre, c'est pas encore ce que vous allez chercher dans l'enfance et qui vous a conduit au théâtre, c'est pourquoi vous êtes resté au théâtre au fond.
Ah, pourquoi j'y suis resté? C'est formidable, une salle noire, c'est un abri génial par rapport à l'extérieur.
Un refuge.
Oui, mais paradoxalement, c'est un refuge à partir duquel, je dirais, on peut avoir une vue particulièrement aiguë sur le réel. Disons la réalité, je ne sais pas s'il faut employer le mot réel. Mais et donc, c'est paradoxal comme attitude. C'est-à-dire que ça veut dire se mettre en réserve, c'est-à-dire trouver l'écart, parce que je pense que c'est important. Cet écart, je veux dire... C'est l'écart de la représentation par rapport à la réalité. Et dans cet écart, il m'a toujours semblé que moi, je pouvais me permettre de réfléchir, évidemment à travers les textes que je travaillais, mais de réfléchir sur le réel, sur la vie collective, sur la forme. Oui, sur le monde, mais aussi en plus... parce que je crois que c'est pour moi une chose très importante, c'est que le tout c'est pas de dire, le tout c'est comment dire. Donc pour moi le comment est presque plus important, c'est-à-dire que la réflexion sur la forme me paraît être une chose essentielle.
Comme si vous cherchiez à donner un sens par la forme et par la signification même, par les textes, au chaos du monde ?
Oui, on pourrait dire ça, mais ça c'est une... Disons que c'est une définition que j'avais donnée de ce que pourrait être mon travail quand je suis arrivé à la direction du Théâtre National de la Colline. Aujourd'hui, je serais plus modeste. D'ailleurs, je dirais pas sens, je dirais d'abord horizon de sens, ce qui me paraît plus intéressant et un peu plus modeste. Et puis, en fait, j'aurais plus envie d'employer un autre mot que sens, c'est-à-dire... j'aime bien le mot... ça, c'est le philosophe... Julien qui disait ça, c'est-à-dire employer le mot cohérence, parce que dans cohérence, il y a co-errer, ou errer avec. Et disons, essayer de trouver une cohérence, même si elle est momentanée ou si elle est encore en mouvement, ça me paraît plus intéressant que de retrouver ou que d'essayer de trouver un sens. Parce que chaque fois que le sens est trouvé, il me semble qu'il y a quelque chose qui se fixe ou qui se fige. Et qui, voilà, j'aime pas trop quand les choses sont pas en mouvement.
Interprétation ?
Interprétation du monde ? Oui, oui, forcément.
Une mais, interprétation qui en laisse, qui laisse la possibilité.
Mais
à
disons
d'autres.
Alors, oui, je pense que interprétation, mais qui laisserait la place, je veux dire, aux multiples ou. Ou alors, si on parle du sens, à une polysémie très, très, très large.
Alors, vous disiez, Alain Françon, que vous n'étiez pas prédestiné, ou destiné, en tout cas, à faire du théâtre. Peut-être, justement, étiez-vous prédestiné, puisque vous êtes né un 16 janvier, en l'occurrence 1945, et que le 16 janvier, si je ne m'abuse, c'est aussi la date de naissance d'un certain Anton Tchekhov.
Oui, j'ai découvert ça, mais normalement, je crois que sur sa fiche d'identité, c'était marqué 17, et je crois qu'il l'a fait rectifier pour 16.
Pour vous, en fait.
Bah oui.
C'est ça.
Il savait que j'allais naître.
Exactement, vous alliez arriver quelques années plus tard. Alors, cela dit, la seule chose qui, en dehors de cette date de naissance, vous raccroche au théâtre dans l'enfance, bah, c'est pas grand-chose, effectivement. C'est plutôt une enfance définie par le monde ouvrier, la mine. Hein. Vous avez grandi à Saint-Étienne, dans un bistrot, le bistrot de quartier de vos grands-parents, et puis le foot. Puisque vous jouiez beaucoup au foot, et puis puisque le foot est une grande fierté de Saint-Étienne. Ce sont les trois repères de votre enfance ?
Oui, je pense essentiellement le café, parce que c'était un café de quartier dans un quartier de mine et de métallurgie. Et donc, c'est...
Du soleil ?
Oui, du soleil. Mais... Oui, j'ai joué au foot dans un club qui s'appelait la Sainte-Barbe du Soleil, puisque la Sainte-Barbe, c'est la patronne des mineurs. Pour moi, c'est essentiel parce que c'est, c'est une enfance en... Le café, c'est un terrain public. Moi, je faisais mes devoirs sur la table en marbre du bistrot, quoi. Au milieu des gens qui passaient, qui venaient boire leur coup. Il m'est arrivé, puisqu'il y avait un billard dans ce café, de jouer au billard avec les gens. Mais j'avais 10 ans, je savais déjà jouer au billard. Et voilà, ou faire le quatrième à la blotte, même si j'avais pas fini les devoirs, c'était pas... Bon, ça, c'est que des anecdotes, mais c'est l'idée que c'est une enfance publique et pas privée ou privative ou je sais pas quel est le mot qui conviendrait.
Vous étiez un enfant unique?
Oui.
Père minier pendant longtemps, puis chef de bureau?
Oui, mon père a travaillé 5 ans au fond et puis après, elle est montée dans les bureaux, oui.
Et votre mère était sténodactylographe?
Oui, elle faisait partie de ces femmes qui, à l'époque, voulaient travailler. Enfin, travaillaient, et donc... C'est pour ça que je suis allé, je pense, très tôt, dès la fin de la maternelle, chez mes grands-parents qui m'ont élevé dans le bistrot. Quoi.
Enfin, voilà, toute la semaine chez les grands-parents, le week-end chez vos parents.
Ouais.
Vous dites une vie publique, un espace public. Mmh. Est-ce que ce serait pas aussi, finalement, ce café du Carrefour, un poste d'observation déjà monde ?
Si, absolument, oui. Oui, oui, absolument, parce que je sais pas, quand il y avait le Tour de France, par exemple, il fallait que j'écoute l'arrivée du Tour de France à la radio et que je l'écrive sur une affiche pour tous les ouvriers qui sortaient le soir de leur travail, quoi. Et donc je regardais leur contentement, leur mécontentement, leurs habitudes, et puis cette chose magnifique qui était que, par exemple, quand le café, les portes étaient fermées, les volets étaient fermés, souvent il restait, je sais pas, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes qui se mettaient à chanter. Bon, je sais plus, ils chantaient un truc, une chanson très populaire sur « Tandis que les grands, les riches et les grands se mirent dans la soie », je sais plus, je me rappelle des paroles comme ça qui reviennent, quoi, mais voilà.
Comme quoi ça va se nicher à des endroits qu'on soupçonne pas, parce que...
Oui, oui,
Vous pouvez les convoquer facilement, et pourtant cette enfance, vous l'avez longtemps refoulée, effacée, oubliée même.
Oui, parce qu'à un moment, j'ai compris quand même que la société était une société de classe quand même, et que j'avais envie de... Le mot, il est compliqué, alors c'est pas tout à fait ça, parce que c'était pas du ressentiment, mais j'avais envie de prendre la parole. Je sais plus quel psychanalyste a dit... Appartenir à la masse et prendre la parole, c'est l'essentiel. Alors en général, les gens appartiennent à la masse, ils prennent pas la parole, ou ceux qui prennent la parole ont l'habitude de prendre la parole. Et donc je me suis dit que il fallait que je prenne la parole. Donc pour prendre la parole, je suis allé chercher la chose qui est la plus incroyable. Je veux dire, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Quand j'étais en histoire de l'art à Lyon, je crois qu'on était 9 étudiants, et tout le reste c'était... les gens de la bourgeoisie lyonnaise qui se faisaient leur culture de salon et qui venaient en cours. Et il me semblait que amasser cette culture-là, pour moi, c'était faire en sorte d'avoir toutes les possibilités de prendre la parole. Oui, ça me semblait être le summum, justement, des gens qui sont cultivés et qui peuvent prendre la parole. Voilà, c'est...
Et vous avez eu des professeurs qui vous ont marqué à vie, hein, dans les cours d'esthétique notamment, Gilles Deleuze.
Oui, bien sûr, il y avait Maldinet, Deneuve et Deleuze, oui. Mais nous, on était historiens d'art, c'est-à-dire que eux, ils étaient profs d'esthétique, mais pour les philosophes. Mais comme nous, on avait un certificat dans la licence qui, où on pouvait choisir l'esthétique plutôt que les caravansérails ou je sais plus quoi. Donc. On allait en esthétique, mais on était un peu largués, hein. Je veux dire, quand Maldinet faisait cours, moi j'arrivais pas à suivre ce qu'il disait et à noter en même temps, donc il fallait soit que je note comme un malade, soit que j'écoute et que je note pas. Mais c'était magnifique.
Vous parliez de forme, la forme est fondamentale et on y reviendra bien sûr dans votre travail de metteur en scène, Alain Françon. Est-ce que vous sauriez dire aujourd'hui, dans vos études d'histoire de l'art, quelles étaient les formes qui vous plaisaient le plus ? Est-ce que c'était la peinture, la sculpture, l'architecture, le tout ?
Alors très bizarrement, la maîtrise que j'ai faite, je l'ai faite sur un architecte qui a travaillé à Firminy dans une ville ouvrière à côté de Saint-Étienne, et c'est Le Corbusier. Donc d'ailleurs, tout le monde, les profs d'histoire de l'art ne comprenaient même pas pourquoi je choisissais ça, parce qu'en fait c'était toujours... Les mémoires se faisaient sur un disciple lyonnais d'Ingres ou de gens comme ça, de peintres comme ça. Heureusement, il y avait une dame qui était prof et qui faisait un cours sur l'architecture. Donc je lui ai proposé de faire ça, elle était d'accord. Je vois bien pourquoi j'ai choisi l'architecture, parce que travaillant sur Le Corbusier, j'étais obligé de me poser la question de la cité radieuse, donc de la vie en société, de la vie collective. Et puis, très bizarrement, c'était une unité d'habitation qui était faite comme celle de la maison du Fada à Marseille, c'est ça, oui. Mais dans des normes HLM, donc c'était très curieux parce que c'était à destination des gens défavorisés dans cette ville. Et en même temps, ils n'arrivaient pas à habiter là. Parce que il y avait un paradoxe total entre ces habitations qui étaient assez magnifiques quand même. Et puis, les habitants qui n'y allaient pas de manière, spontanée.
Spontanée? Oui. Qui ne se permettaient pas d'y aller, finalement.
Non. En fait, je me rappelle, c'est par rue. Et donc, la 5e rue, il y avait absolument tous les enseignants de la ville, à peu près, qui habitaient, comme c'était sur 2 étages, qui habitaient ça comme une villa, presque. Mais il y avait des rues entières. D'ailleurs, elle est fermée, maintenant. Cette unité d'habitation est fermée, c'est devenu un musée.
Et ça a donné quoi pour vous, ces études-là ? Vous les avez terminées ? Au fond, vous êtes allé jusqu'au 3e cycle ?
Je suis allé, j'avais commencé. Après, je voulais faire la machine dans l'art contemporain, mais... Je me suis arrêté là, non. Après, c'était le Théâtre Éclaté avait été fondé avec mes camarades du Théâtre Éclaté. Donc, je sais que quand j'ai passé l'entretien sur le mémoire de maîtrise, en même temps, on avait déjà fait le spectacle qui s'appelait la farce de Burgos au Théâtre Éclaté. Donc,
le Théâtre Éclaté, c'est la première compagnie que vous avez montée, parce qu'à ce moment-là, le théâtre était déjà entré dans votre vie. Mais reprenons les bases. On était dans le poste d'observation au Café du Carrefour. espace public, l'espace justement avec ce travail que vous avez fait en lien entre l'art et l'architecture, à Firminy. Donc là, on a un travail sur l'espace.
Oui.
Et puis peut-être qu'on peut ajouter, vous l'avez évoqué, la vie en société, la vie collective. Est-ce que, d'une certaine façon, le foot que vous pratiquiez, enfant, ne vous a pas aussi donné un vrai sens du collectif? C'est-à-dire, je passe la balle et on me la repasse, d'une certaine façon.
Oui, oui, absolument. Ben, c'est-à-dire que ben, je pense que Saint-Étienne, on disait les Verts. Donc les Verts, c'est l'équipe de foot, et on disait les Dastés. Et les Dastés, c'était l'équipe de Jean Dasté, c'est-à-dire le directeur
fondateur du second CDN de France en 47, ouais,
la Comédie de Saint-Étienne.
Très important, Jean Dasté, comme figure.
Ben, oui, oui.
Très connu là-bas, donc.
Très, très connu, oui. Et donc, pour revenir au foot, c'était l'idée de... Ouais, c'est l'idée de l'équipe, oui. Ouais, c'est des choses qui sont similaires avec le travail dans une compagnie ou dans une troupe. Ou, je pense que c'est... Oui, je pense que c'est important, oui. Oui, oui, mais on s'est amusé un jour, je ne sais plus dans quelle émission, à chercher les mots communs d'un lexique entre foot et jouer, quoi. Donc, par exemple, la scène comme la surface de réparation, on appelle ça qu'on appelle au foot, ou sur, je sais pas, oui, il y a des gens qui savent pas passer la balle, oui, il y a des gens qui savent pas faire une passe, il y a des gens qui savent, enfin, etc. Je veux dire, on peut s'amuser sur le lexique du foot pourrait parler de l'art de l'acteur, ouais.
Et alors, à quel moment arrive le théâtre? Je crois que vous le croisez une première fois quand vous avez 14 ans avec un souvenir de sorcière, mais enfin, ça, c'est un peu flou encore.
Ah oui, non, ça c'est très flou, c'est parce que Dasté à l'époque avait un cirque et jouait en plein air. Et d'ailleurs, je sais même pas si le souvenir que j'ai, c'était pas directement sur la place et le décor installé sur la place, il y avait même plus le chapiteau, je crois. Et donc j'ai un vague souvenir comme ça, oui, mais c'est très mélangé parce que c'était tellement populaire que les gens, il y avait toutes les terrasses et bistrots à côté, les gens buvaient un coup, puis de temps en temps écoutaient... la pièce, et puis finalement on parlait entre eux d'autres choses, et puis on revenait à la pièce. Enfin, c'était un
espèce de brouhaha.
Oui, il y a des photos très belles d'un photographe qui s'appelle Ito Josué, qui a photographié tous ces lieux extérieurs où Dasté a joué à cette époque. Et ça, il y a des visages d'une humanité là-dedans qui sont totalement. C'est magnifique.
C'était quoi le parcours de Jean Dasté avant d'arriver au CDN
Je crois que
de Saint-Étienne.
C'était d'abord un acteur de cinéma, vraiment. C'est... Mais et en plus, je pense qu'il aurait pu faire une carrière très très brillante. Hein, je veux dire, c'était quand même l'acteur de Vigo, de La Talente. Mais un jour, je lui ai demandé parce que j'ai fait avant qu'il finisse sa vie, j'ai fait une interview de lui comme ça dans sa maison à Gordes pour qu'on parle comme ça de. Et il m'a confié qu'en fait, il avait beaucoup tourné, mais que ça marchait pas très bien, parce que si ça avait marché mieux, il aurait fait du cinéma, en fait. il était l'élève de Copeau aussi, donc il faisait partie des Copiaux, de Bernard Vergelès, toute l'expérience de Copeau là-bas, et donc je pense qu'il avait une forte idée de ce qu'on appellerait aujourd'hui, enfin de ce qui s'est appelé à l'époque la décentralisation théâtrale. Oui.
Et dont on parlera demain, hein, si vous le voulez bien, pour
bien
qualifier ce monde du théâtre à l'orée des années 60-70. Mais revenons à vos premières expériences théâtrales. Ce souvenir de sorcière donc reste un peu flou dans votre esprit. Mais en revanche, il y en a peut-être un peu plus précis quand même. C'est cet oncle Vania que vous êtes allé voir avec un copain de lycée. C'était une mise en scène de Gabriel Monet. Et justement, Jean Dasté jouait Vania.
Oui. C'est des gens que j'ai connus après, mais à l'époque, je ne savais pas qui ils étaient. Quoi. Et je me suis profondément ennuyé. Enfin, parce que je ne comprenais pas qu'on mette... Enfin, bon. Après, j'accuse pas la mise en scène de Gabi Monet, je veux dire, mais je ne comprenais pas qu'on mette des gens qui s'ennuient sur un plateau pour ennuyer des gens qui sont dans la salle. Quoi. Je ne comprenais pas bien ce...
Quel
alors,
intérêt
avec oui, ça. L'intérêt. Alors, je ne sais pas... Est-ce que c'était dû à la mise en scène et comment, à l'époque, on pouvait monter...
Tchekhov
avec les samovars et tout ça, quoi. Et puis le côté l'ennui. Bon, mais je crois que 6 mois après, j'ai revu... Alors là, ça doit être sous chapiteau, Homme pour Homme de Brecht. Et là, je veux dire, tout à coup, j'ai compris ce que c'était que le théâtre, quoi. C'est-à-dire la ferveur. Là, j'ai vu la ferveur du public, par exemple. Alors, je sais pas, c'était dans d'autres conditions, hein. C'était du plein air, c'était autre chose. Jean jouait, Dasté jouait tout le temps aussi, il jouait là-dedans. C'est pas lui qui jouait homme pour homme, mais je sais plus quel rôle il faisait. Je crois que c'était un metteur en scène anglais qui travaillait beaucoup à la Comédie de Saint-Étienne, qui s'appelait John Blatchley, qui avait fait la mise en scène. Et là, c'était tout à fait différent. Alors, je pense que c'est la pièce de Brecht d'abord, mais il y avait une vraie communion avec le public. C'est ça que j'ai ressenti. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'ai vraiment compris que cette forme-là de théâtre, ces gens qui étaient sur une scène et qui s'adressaient à d'autres, qui étaient spectateurs, était une forme de vie collective, quoi.
Intéressante, justement.
Oui,
là,
en tout
l'intérêt,
cas. Oui. Ouais, ouais.
Vous êtes passé de l'ennui au choc.
Absolument.
C'était comme un choc, une révélation. Et c'est après que vous avez fondé avec quelques copains lycée, deux, je crois, un trio amateur de théâtre. C'est
oui,
au lycée ?
Oui, au départ, mais très vite, au lycée d'abord, et puis après, justement, Dasté avait, il n'avait pas le label officiel d'école de théâtre nationale, mais il donnait des cours le soir, et puis même les acteurs qui venaient travailler avec lui faisaient travailler des jeunes gens le soir. Et donc, avec ces jeunes gens, plus les trois amis du lycée, on a commencé à faire une troupe. Et puis, elle était, disons, je ne sais pas comment dire, semi-professionnelle, quoi. Enfin, je veux dire amateur. Et on a monté beaucoup de spectacles, et Dasté, et puis c'est les gens qui l'entouraient, ont toujours mis les spectacles qu'on faisait à l'abonnement de la Comédie. Donc, on faisait un peu partie de la Comédie, d'une certaine manière, tout en étant très... mais avec des conditions... Jean, il voulait absolument qu'on travaille ce que lui n'aimait pas beaucoup, je pense. C'est ce qu'on appelait le théâtre de l'absurde à l'époque, quoi. Donc c'était Beckett, Ionesco, Baldia, Arabal, Pinget. Comme metteur en scène, je me suis tous tapé, oui, à peu près.
C'est ça que vous aimiez monter ?
Pas vraiment. Beckett, oui. Ionesco, pas du tout. Arabal, pas du tout. Pinget, oui. C'était des choix d'opportunité. Enfin, je veux dire, on s'amusait beaucoup, hein, puis on croyait profondément à ce qu'on faisait, hein. C'était pas du tout. Mais c'était pas. C'était un cadre très spécial parce que, pendant ce temps, Dasté, il faisait monter l'opéra des Gueux, je sais pas, autre chose, tout à fait autre chose, quoi. Un répertoire, disons, plus, oui, populaire, entre guillemets.
Mais il vous laissait le grenier de l'école des mines où il répétait à disposition.
Ah oui,
vous.
Bien sûr, oui.
Il
oui,
vous soutenait, quoi.
Oui, c'est un, oui, complètement, oui. Mais c'était très, très, généreux. Je pense qu'on était la seule troupe vraiment cohérente aussi à Saint-Étienne à cette époque-là. Et le fait qu'ils nous mettent à l'abonnement était très, non seulement généreux, mais très valorisant pour nous.
Oui, c'est aussi qu'ils croyaient sans doute en vous.
Ah.
Alors que vous n'aviez pas l'air de beaucoup croire en ce que vous faisiez. Vous avez des souvenirs de spectacles assez calamiteux, j'ai lu.
Oui.
Ah, pas tant que ça, quand même.
Je ne saurais pas si, c'est-à-dire que moi, c'est difficile d'en parler parce que il y avait, je ne sais pas, dedans, il y avait quoi ? Il y avait une espèce d'innocence radicale de départ, quoi. C'est-à-dire donc sûrement qu'elle était relativement belle, entre guillemets. Si aujourd'hui je réfléchis à comment c'était, je peux que le critiquer, je ne peux pas faire autrement.
Ah ouais, c'était quand même la jeunesse.
Ah oui.
Mais à ce moment-là, vous jouiez Alain Françon ? Vous étiez acteur ?
Hélas, oui.
Acteur et metteur en scène ou non ? Vous étiez acteur et tout le monde. Comment ça se passait dans cette troupe ?
Dans cette troupe, j'étais plutôt metteur en scène. Et c'est surtout après, au Théâtre Éclaté, avec mes camarades, quand on l'a fondé. Vraiment, alors là, c'était la troupe professionnelle, je veux dire. Donc là, j'étais acteur et metteur en scène. Acteur d'abord. Metteur en scène après et metteur en scène désigné par les autres.
Ouais, c'est ce qu'on verra demain, puisque lors d'un spectacle, vous avez été repéré par le directeur de l'action culturelle d'Annecy, c'est ça ?
Oui.
Qui va être en fait à l'origine de la création de cette troupe, le Théâtre Éclaté. Vous pouvez nous raconter ce moment ?
Je crois qu'on avait monté deux pièces de René de Obaldia, Je crois qu'il y a le cosmonaute agricole et l'autre, je ne me souviens plus. Je pense qu'on l'a joué dans une maison des jeunes à Annecy. Et le directeur de cette maison des jeunes était en train de poser avec le ministère les fondements d'une scène nationale. En fait, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, ça s'appelait un centre culturel. Je ne me souviens plus la vraie définition. Enfin, maintenant, c'est une scène nationale, d'ailleurs. Et donc, il voulait, à l'intérieur de cette scène nationale, avoir une unité de création théâtre. Et comme il avait vu les spectacles qu'on faisait, en particulier ces deux pièces de Obaldia, il nous a demandé si ça nous intéressait de venir s'installer à Annecy et de faire partie de cette scène nationale. Aujourd'hui, on dirait résidence aujourd'hui. À l'époque, on disait pas le mot, mais ça voudrait dire venez en résidence travailler chez nous. Ouais.
À ce moment-là, vous avez été lancé. Mais est-ce que vous diriez que cette rampe de lancement était un choix pour vous à ce moment-là? Est-ce que là, vous saviez que vous vouliez faire du théâtre professionnel?
Oui.
Et est-ce que mais vous savez à quel moment ça s'est décidé dans votre tête, ça? Qu'est-ce qui a été le déclic? Si c'est Homme pour Homme de Brecht, si c'est les spectacles que vous montiez avec votre troupe
Ce qui a été le plus déterminant, je pense que c'est le groupe qu'on a fait. Parce que le groupe du théâtre éclaté était très, je sais pas comment dire, c'est pas tout à fait la suite de cette compagnie-là, semi-professionnelle de Saint-Étienne. On était deux à en faire partie. S'est joint à nous André Marcon, qui était élève de la Comédie de Saint-Étienne, Evelyne Didi, qui était aussi élève de la Comédie de Saint-Étienne, et Christiane Coendi, qui elle venait de Clermont. Donc c'était ce qui m'a le plus décidé, c'est ce groupe de cinq personnes qui on parlait tellement à l'époque de théâtre, c'était post 68, donc on avait, disons entre guillemets, une définition ou une idée qui est en train de se fabriquer d'un théâtre militant. Et les cinq là, on se rejoignait parfaitement sur ces idées-là, quoi. Et en fait, c'est même pas, oui, c'est sûrement le mot théâtre, mais je suis obligé d'y ajouter militant. Si je dis que je décide de faire du théâtre, alors c'est ce théâtre-là que je décide de faire.
Dans un moment de théâtre en ébullition, oui. Et c'est ce qu'on verra demain, Alain Françon. Merci, à demain.
D'accord, à demain.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Hélène Langlois et Michael Simon, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.